La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose le commentaire d'un texte de la Bible centré sur le Christ.
Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Radio Présence et dans cette émission, la prédication protestante. Je suis le pasteur Laurent Lenoir de l'église Espoir et Vie de la ville de Groyer dans le Tarn. Je voudrais vous proposer un texte très court, mais qui va avoir toute son importance dans ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Ce texte se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 15 et verset 24. Voici ce que nous y lisons, Luc, chapitre 15, verset 24. « Car mon fils, que voici, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. » J'ai pris juste le verset 24, mais finalement, vous le comprenez très bien, que ce verset se situe au centre de cette parabole qui est appelée la parabole du fils prodigue, donc dans l'évangile de Luc, chapitre 15. Et en effet, l'histoire, avant d'en arriver à ce verset 24, nous dit qu'il y avait donc une propriété, le père, et également deux fils, un jeune et un plus âgé. Et l'un des deux, le plus jeune, le cadet, décide, pour une raison qui nous échappe, mais finalement, dans cette parabole, Jésus va donc souligner plusieurs vérités comme celle-ci, et ça va nous parler, ça va vous parler. Il nous est dit que le fils le plus jeune, le cadet, et qu'en réalité, quand on regarde le contexte de l'histoire, est en réalité un mauvais garnement, égoïste, n'hésitant pas à briser le cœur de son père en méprisant les liens familiaux et en réclamant sa part d'héritage avant même que le père fût mort. Et il va ainsi disparaître de la propriété, de la ferme familiale, nous dit le texte, pour vivre dans un pays éloigné, dans la débauche. Permettez-moi de vous rappeler qu'il y a un contexte biblique, théologique, doctrinal pour comprendre finalement ce que cela veut dire. Quand je lis dans le livre du Deutéronome, dans votre Bible, dans l'Ancien Testament, dans le livre du Deutéronome, il nous est dit au chapitre 21 que le fils cadet, selon la loi donnée par Dieu à Moïse, et le Deutéronome est le rappel de cette loi, donc aux enfants d'Israël, il était donc noté ceci, que le fils cadet recevait en général un tiers des biens et le fils aîné, lui, il recevait les deux tiers. Et de ce fait, l'héritage était partagé, bien entendu, à la mort du père. Mais il arrivait que ce dernier divise ses biens plus tôt et se retire du domaine, prenne, si vous préférez, sa retraite. Par contre, il était inhabituel qu'un fils prenne l'initiative du partage. En agissant ainsi, comme la parabole le souligne, en agissant ainsi, finalement, le jeune fils, le cadet, que fait-il ? Il démontre qu'il méprise l'autorité de chef de famille, donc de son père. Alors, son père va finalement donc lui donner la part de l'héritage. Le père n'essaie même pas de le retenir. Il ne tente aucune démarche pour le ramener. Il sait très bien que ça serait peine perdue, vu certainement l'attitude donc sûre et certaine qu'il y avait là dans la démarche du fils cadet. Et le père va attendre une seule chose, il va compter sur le temps et voire même les déboires de la vie, parce que la vie est ainsi faite sur la terre, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments formidables, il y a des moments plus difficiles, et donc il se dit, finalement, dans les moments difficiles, comme connaît tout homme sur cette terre, eh bien, mon fils, mon jeune fils, finira par réaliser sa folie, son erreur. Combien de temps est-il resté absent ? L'histoire ne nous le dit pas. Mais cette famille, finalement, à cause de l'attitude de ce jeune garçon, va être brisée. Et elle va être brisée par, je dirais, une attitude même qui ne peut pas plaire à Dieu. Parce qu'il y a des attitudes que l'on peut mettre sous le vocable du mot « péché », « manquer le but », dans l'attitude, dans la réaction, pas du père. Vous allez comprendre de qui, finalement, je le dis de suite, du fils aîné. Nous découvrons deux attitudes, en effet. Celle du fils aîné, qui lui est resté dans le domaine, dans l'exploitation familiale, et l'attitude de ce frère, donc aîné, elle est pleine de rancœur. On le voit dans le texte. Elle est pleine d'indignation. Alors, on pourrait dire que c'est une attitude tout à fait humaine, compréhensible, devant le comportement scandaleux de son jeune frère. L'attitude que je mets sous le vocable « péché » ici, « manquer le but », qui ne peut pas plaire à Dieu, c'est une attitude de jugement. Et puis, vous avez en contrepartie l'attitude du père, et lui, son attitude, elle est aimante. Il souffre infiniment plus de l'absence du fils chéri que de l'offense reçue. Et là, nous avons une attitude qui ne peut pas être sous le vocable du mot « péché, manquer le but » et qui te serait donc désagréable à Dieu. C'est plutôt une attitude qui plaît à Dieu et qui se trouve être un des attributs principaux de l'Éternel, du Seigneur. C'est une attitude d'amour. Et la parabole nous montre que, finalement, eh bien, à un moment donné, le fils, le jeune, le cadet, va revenir. Et la parabole nous dit que, comme il était encore loin, ce fils, le père le vit. Le père l'a remarqué, nous dit le texte. Et je voudrais attirer votre attention là-dessus. C'est que encore fallait-il non seulement regarder, mais aussi se trouver à un endroit d'où on pouvait voir de loin. Et c'est ce qui me fait penser que dans le cœur de ce père, avec cet amour qui est le sien à l'égard de son jeune fils, à l'égard donc de ce jeune fils, il a aussi en lui-même, ce père, un désir de pardonner. Il y avait aussi, de par le fait qu'il regarde au loin, il se met dans la position idéale pour regarder au loin, attendant son fils. Donc, il est dans une attitude d'espoir. Oh, c'est un espoir bien petit, peut-être, à en juger par l'expression qu'il va employer pour justifier sa grande fête, en disant, et on l'a lu tout à l'heure ce verset, « Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. » Alors je précise, non pas qu'il le crut mort physiquement, mais mort parce que perdu. Et là, ça fait toute la différence. Vous savez, comme pour beaucoup de personnes qui sont rebelles, immature. Le fils cadet, quand il part de la propriété, avant de revenir, comme je viens de le souligner à l'instant, avant de revenir, eh bien, il va penser, il va croire, avec la part de l'héritage qui lui a été remis, qu'il peut être libre de vivre comme bon lui semble. Alors, à ce moment-là, bien entendu, quand il est dans ce pays lointain pour dépenser tout son héritage en vivant dans la débauche, en vivant dans le péché, en vivant dans une situation qui va déplaire à Dieu, blesser le cœur de Dieu, mais bien entendu, ça blesse le cœur du Père, je l'ai déjà dit, mais il ne pense pas à revenir à la maison. Il va y penser que lorsqu'il va toucher le fond du fond, mes amis. Et la parabole, elle est claire, parce qu'à un moment donné, ce fils, eh bien, il va complètement être désemparé, il va être désargenté, il va être abandonné de tous les amis qu'il avait autour de lui, parce que finalement, ils étaient autour de lui, parce qu'il avait certainement, de par cet héritage, il avait beaucoup d'argent. Mais à un moment donné, eh bien, il avait tout dépensé, et il va se retrouver seul, sans rien, même sans rien manger, et ça devient quelque chose de compliqué, de difficile. C'est ça, finalement, je voudrais que vous le compreniez, qui fait que le père dit « mon fils qui était mort, il était perdu, il était finalement donc dans des temps bien difficiles ». Où il y avait, à un moment donné, des incertitudes, des jours d'angoisse à se torturer le cœur. Et donc, il était dans une situation de froid, de faim, en danger. Et le père, qui est resté à la maison, qui attend son fils, qui regarde loin régulièrement, jour après jour, il dit « mais va revenir ». Et finalement, il va revenir. Mais dans quel état? Dans quel état? Parce que je me rends compte que l'être humain, en tant que pasteur, je peux vous le dire, pour avoir côtoyé tant et tant de gens, tant et tant de personnes, et encore aujourd'hui, des jeunes jusqu'à des personnes les plus âgées, l'être humain doit souvent passer par de cruelles déceptions, par des aventures pénibles. Très souvent, beaucoup doivent impérativement toucher le fond du fond de l'abîme, si je puis m'exprimer ainsi, avant de consentir à regarder à celui seul qui peut sauver, qui peut pardonner, qui peut restaurer, qui peut redonner un souffle de vie, qui peut rallumer la bougie qui s'est éteinte finalement, qui n'éteint pas le lumignon qui fume, il ne brise pas le roseau cassé. Je voudrais vous encourager et vous faire toucher du doigt qu'aujourd'hui, en ce jour où vous écoutez ce message, il y a là une possibilité pour vous, eh bien, de perdu que vous êtes, d'être sauvé, d'être relevé, d'être restauré, d'être béni au-delà de toute mesure. Je vous rappelle que la Bible nous dit que les bénédictions de Dieu enrichissent et ne sont suivies d'aucun chagrin. Vous essayez peut-être de vivre, mes amis, vous qui écoutez, je n'en sais rien, mais Dieu le sait, de vivre à votre guise en déclinant toute responsabilité, en refusant tout ce qui pourrait vous empêcher d'en faire à votre tête, mais il est important de s'arrêter. Il est important d'ouvrir les yeux avant justement de toucher le fond du fond du gouffre. La Bible dit que c'est aujourd'hui le jour du salut. La Bible dit que c'est maintenant le temps favorable. La Bible nous montre, l'Évangile nous montre que Dieu est amour. Et quand nous venons vers Jésus, eh bien alors, le Fils de Dieu, le Sauveur, le Rédempteur, nous nous épargnons bien des tracas inutiles, et non seulement à nous, mais à notre famille aussi, des tracas et des tristesses parce que le père, oh, pas le fils aîné, mais le père, il était triste, il était affligé, il était dans la peine d'avoir vu son fils réagir ainsi, sachant ce qui allait lui arriver. Mais à un moment donné, il revient. Et moi, je bénis Dieu pour ceux qui reviennent. Je bénis Dieu pour ceux qui viennent vers Jésus. Je bénis Dieu encore aujourd'hui de ce qu'ils acceptent de faire cette marche vers l'amour de Dieu, vers le Père qui a les bras ouverts. Et oui, il était perdu, il est retrouvé. Et ce qui me fait du bien, c'est que dans ce verset 24 de Luc 15, il est écrit « Et ils commencèrent à se réjouir. Alléluia !» Au départ, c'est la faim qui le force à réfléchir, le souvenir de son péché. Oh, il n'a pas tué, il n'a pas volé, mais il a quand même brisé le cœur de son père. Il dira d'ailleurs, dans sa prière, il dira, à son père, il va lui dire, mais j'ai péché d'abord, dit-il, et c'est bien de mettre les choses à leur place. Il dit, j'ai péché contre Dieu, mais j'ai aussi péché contre toi, papa. J'ai blessé le cœur de Dieu. J'ai bafoué sa sainteté, mais en même temps, je t'ai fait du mal. Et il réclame finalement le pardon que seul le cœur de son Père, le cœur même de Dieu, peut donner aujourd'hui. Il en est ainsi. C'est le moment, justement, d'ouvrir ses yeux, que votre conscience se réveille. Il y a deux voies qui s'ouvrent quand on est malheureux. Ou bien le découragement, le désespoir, et voire même, ça arrive de plus en plus, le suicide, la voie, donc également de l'incrédulité qui plonge encore plus le cœur dans la mort spirituelle. Ou sinon, il y a la repentance. Il y a la repentance, il y a l'humilité, Dieu fait grâce aux humbles, l'humilité précède la gloire, il y a le salut qui est offert en Jésus-Christ car il a tout accompli à la croix du calvaire. Il y a le chemin de la foi en Dieu, comme quoi Dieu le Père a ressuscité Jésus-Christ, son Fils unique, d'entre les morts, que Dieu soit loué. Et donc, il y a ce chemin. Et c'est parce qu'il connaît le cœur de son Père, ce Fils, qu'il va choisir ce chemin, donc, de la repentance. C'est encore possible, afin que, dans le ciel, il y ait de la joie. La Bible nous dit dans ce texte d'une manière contextuelle, parce qu'il y a deux autres paraboles, celle de la brebis perdue et celle de la drachme perdue juste avant, dans Luc chapitre 15. Et vous remarquerez qu'il est question du fait qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Donc je comprends qu'ils vont commencer à se réjouir. Oui, avant de conclure, ils vont se réjouir au pluriel, le père, les serviteurs, les servantes, etc. Sauf un. Le seul qui ne se réjouit pas, c'est le fils aîné. Oh, me direz-vous, et quand même, monsieur le pasteur, il a de solides arguments, le fils aîné. Il est bien pensant, il est propre juste, n'ayant jamais fait un écart, ayant toujours obéi à son père, mais il a fait tout cela. Il vivait ce service-là, comment ? Avec une sourde rancune non avouée, et ce pendant longtemps, une rancune contre son frère, le traitant de voyou qui a déshonoré la famille, certes, mais rancune aussi contre son père, qui, selon lui, il ne lui a jamais fait de cadeau. « Papa, je travaille pour toi, moi je n'ai pas réagi ainsi, je ne t'ai rien demandé. » « Mais tu m'offres rien. » Et le père dit, « Mais enfin, tout ce que j'ai est à toi. Si tu es dans la maison, si tu es attaché à moi, si tu es uni à moi comme un fils, alors tout ce que j'ai, tu peux le prendre. » Mais finalement, le fils aîné, chers amis, il ne se positionnait pas comme un fils, il se positionnait comme un serviteur, un esclave. Et c'est ça le problème de la rancœur de son cœur. Dieu vous aime, il veut vous porter comme des fils et vous accorder sa grâce comme des fils et des filles. Si vous venez vers lui, eh bien, tout ce qu'il a est pour vous. Mais ce fils aîné, quelle image avait-il donc de son père ? Lui qui vivait chaque jour auprès de lui. Alors, quand pour lui, son jeune frère, considéré à ses yeux comme un voyou, alors quand il revient, ça explose. Et c'est là le grand danger de l'esprit de condamnation, parce que ça vous explose à la figure un jour. L'attitude de jugement, ça vous explose à la figure un jour, parce que qui es-tu, toi, qui commets les mêmes erreurs que les autres ? Et Jésus est venu pour te le montrer. Lui seul peut te sauver, lui seul peut te changer, lui seul peut te pardonner de tout péché, parce que lui seul a tout accompli parfaitement à la croix du calvaire. Oh, le Père, lui, n'a pas honte de son fils indigne. Il ne lui adressera aucun reproche. Il constate seulement la grandeur du changement, pour ne pas dire du miracle, qui remplit son cœur de joie. C'est une forme de résurrection que j'appelle une résurrection spirituelle. Oui, il était perdu par sa propre force, par sa propre faute, dirais-je. Oui, en vertu d'une double illusion. Quand on est loin de la maison du Père et qu'on a de l'argent, on s'imagine qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Deuxièmement, lorsqu'on fait ce qu'on veut, on croit qu'on est parfaitement heureux, qu'on est libre. Il ne se croyait pas perdu, il ne savait pas qu'il était mort. Les morts ne sentent rien. Mais à un moment donné, il va revenir. Il va être retrouvé. Il va être réhabilité. On va lui remettre une belle tunique. On va lui remettre l'anneau au doigt, qui montre donc la communion, la réalité d'une communion avec son père, de parentalité, d'union avec donc tout ce qui touche à cette famille dont il fait partie. Oui, quand ça expose à la figure du frère aîné, c'est parce qu'il n'a pas la bonne attitude. Vous savez, la Bible dit que le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Et la miséricorde, par contre, le pardon, triomphe du jugement. Alors, je voudrais conclure en vous disant ceci. Merci, Seigneur. Je le dis dans ma conclusion. Merci, Seigneur, d'avoir accueilli tant de fils et de filles prodigues, dont moi je faisais partie, bien entendu. Mais je dis merci, Seigneur, de ce qu'aujourd'hui, alors que vous écoutez ce message, eh bien, de vous laisser accueillir comme fils et filles prodigues. Et je prie pour vous, afin qu'il en soit ainsi, et je prie pour vous, comme je le fais pour moi-même, de vous garder, de me garder, de ne jamais devenir un fils aîné. Que Dieu vous bénisse.
Seigneur, j'ai été sans but, aveuglé par la vie qui m'entourait. Je me suis égaré, je l'admets, dans l'obscurité, mais cherchant ta lumière. Je reviens au temps de l'innocence, au temps de la pureté, simple comme un enfant en ta présence, en toute humilité, pour me rendre entier. Guéris-moi de ce que le monde m'a fait, écouter ta voix comme une prière. Renaître dans la foi, enlève tout regret, marcher vers toi avec un cœur sincère. Al tempo da innocencia, io quiero voltar. Al tempo da pureza, io quiero voltar. Da simplicidade con pai, humildade con Deus, ser curado do que o mundo me fez. Prison, rejeter l'ombre de tous les démons. Seigneur, je veux te choisir, c'est avec toi que je veux revivre. Guéris-moi de ce que le monde m'a fait. Écouter ta voix comme une prière. Renaître dans la foi, enlever tout regret. Marcher vers toi avec un cœur sincère.